Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV.
C'est vous qui représentez le système. Hello.
Et si on se faisait une étoile sur petit écran?
C'est énorme ce qui s'est passé, les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
Il a l'air pas mal ce film, mais j'attendrai qu'il passe à la télé. Une phrase tellement banale et anodine. Eh bien, vous n'imaginez pas toutes les tractations commerciales, toutes les réglementations et les débats qui se cachent derrière cette phrase. Quand un film sort en salle, il ne peut pas passer tout de suite à la télévision. Les chaînes sont soumises à un délai en fonction de certains critères. On appelle ça la chronologie des médias. Aujourd'hui, les règles sont devenues obsolètes, chamboulées par Netflix et autres plateformes. Le gouvernement veut donc une réforme. Alors, qui seront les gagnants et les perdants des nouvelles règles du jeu? Et nous, spectateurs, est-ce qu'on pourra voir les films plus tôt à la télé? Que va devenir la fameuse exception culturelle, les chaînes de télé qui financent le cinéma? Allez, on appuie sur pause ce matin pour comprendre s'il faut accélérer la chronologie.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter avec Dorothée Barba.
Bonjour Isabelle Giordano.
Bonjour Dorothée, bonjour à tous.
Bienvenue, ancienne journaliste à France Inter, ambassadrice aujourd'hui du cinéma français. Vous êtes la directrice générale d'Unifrance, organisme qui promeut le cinéma français partout dans le monde. À vos côtés, Pascal Lechevalier, bonjour.
Bonjour.
En veille permanente sur l'actu de la VOD, du streaming, de Netflix et autres plateformes. Vous dirigez une agence de conseil en médias numériques. Vous êtes l'expert de ce dossier. Isabelle Giordano, un petit pronostic avant toute chose pour les Césars ce soir. Meilleur film.
120 battements par minute peut-être.
Toute
mais
catégorie.
Je crois que pas mal de gens ont voté aussi pour Le Sens de la Fête. Donc je sais pas, ça va être très serré. J'ai du mal à savoir qui va gagner ce soir.
Bon, comme prévu, ces deux films-là vont rafler toutes les statuettes. En tout cas.
Je sais pas si c'est comme prévu parce que vous savez, il y a toujours des impondérables, on sait jamais. Mais c'est ça qui est bien quand on regarde la cérémonie, c'est d'avoir des belles surprises.
Et on parle de cinéma à la télé juste
et
après.
J'ai vu Robin Campillo hier soir qui m'a dit qu'il ferait un speech. S'il gagne, il va faire un speech assez politique et activiste.
Ah, très bien, le réalisateur de 120 battements par minute. On parle de cinéma à la télé, ce sera juste après l'Instant Madeleine, le jeu du vendredi dans l'Instant M, une grande voix à reconnaître. Les auditeurs nous écrivent pour gagner un cadeau. D'abord, l'actu des médias. Êtes-vous favorable à la suppression de la redevance? C'est en Suisse qu'on pose la question. Le référendum qui inquiète les défenseurs de l'audiovisuel public a lieu ce dimanche. Et si le oui l'emportait, bien ce serait la mort de la société suisse de radiodiffusion et de télévision. La fin pure et simple donc de l'audiovisuel public en quatre langues. Les sondages laissent penser que les Suisses sont attachés à leurs médias publics. Ils voteraient donc non en majorité. Ne manquez pas le reportage de Vanessa Descoureaux sur le sujet. Ce sera dimanche dans Interception sur France Inter. Un message posté sur Twitter hier soir à 23h par un téléspectateur lambda. Pourquoi je ne capte plus aucune chaîne du groupe TF1 depuis 5 minutes sur mon abonnement Canal+? Réponse, Canal+ a coupé l'image hier en fin de soirée. La chaîne cryptée qui est en conflit avec TF1 depuis de longs mois hausse le ton donc. Dans un communiqué, le groupe de Vincent Bolloré annonce l'interruption de la diffusion des chaînes de TF1 faute d'un accord commercial et de dénoncer au passage les exigences financières déraisonnables de la première chaîne. TF1 demande en effet à Canal de payer pour continuer à diffuser ses chaînes et Canal s'y refuse. Alors j'aimerais vous faire réagir, Pascal Lechevalier. Quelle issue voyez-vous à cette guerre des chaînes?
L'issue est sans doute très très simple, c'est la négociation. Donc il y aura forcément un accord à un moment
Canal
donné.
Canal+ va finir par payer?
Alors il n'y a pas que Canal+, il y a également Orange qui est en dispute avec le groupe TF1. Puis il y a Free qui, pour l'instant, a une position assez dure en disant « je refuse de payer quoi que ce soit au groupe TF1 ». Je pense que de toute façon, la sagesse impose qu'un accord soit trouvé entre toutes les parties, avec peut-être le CSA qui arbitrera ou le ministère de la Culture.
Ça vous a surpris, cette annonce hier soir? On coupe l'image, Isabelle Giordano, c'est dingue.
Ah bah moi, je dirais à cet auditeur, il faut écouter la radio. Moi, je dirais que Joss est à la maison, il n'a qu'à écouter Laurent Goumard.
Non, mais pour qu'on comprenne bien, il s'agit des gens qui regardent TF1 via leur abonnement à Canal+. Ça concerne une frange réduite des téléspectateurs, mais c'est quand même assez spectaculaire comme mesure.
Alors, je rappelle qu'on peut aujourd'hui réceptionner les chaînes de télévision via une antenne TNT, c'est-à-dire sans passer par une box. Là, en fait, il s'agit de la distribution des chaînes du groupe TF1 et de tous leurs compléments, c'est-à-dire le start-over, le fait de pouvoir recommencer le visionnage d'une émission en cours, le replay sur les box.
Voilà, ce feuilleton, en tout cas ce bras de fer TF1 Canal+, est loin d'être terminé, on en reparlera largement dans l'Instant M. Place à l'Instant Madeleine, notre jeu du vendredi. Et cette semaine, c'est trop fastoche, à mon avis, une grande voix de la radio à reconnaître, chers auditeurs. Le premier qui nous écrit avec la bonne réponse gagne un cadeau.
Dans la ville de Paramaribo, il y a une rue qui monte et qui ne descend jamais.
Et au bout de la rue qui monte et qui ne descend jamais dans la ville de Paramaribo, il y a une place avec un arbre qu'on appelle un palétuvier.
Mes invités ouvrent de grands yeux ronds. Ils n'ont pas trouvé ?
Non, moi, j'ai pas trouvé. J'aurais pas de cadeau.
Mais qui est ce monsieur ? Mes invités ont-ils, mais les auditeurs ont-ils reconnu la voix ? On dit rien. Écrivez-nous à l'instantm@radiofrance.com. L'instant M, tout attaché. Et le plus rapide, je le montre à ceux qui nous regardent sur Internet, gagnera Prévert, Enfance, un double CD édité par Lina, dans lequel Jacques Prévert raconte ses jeunes années. Autoportrait sonore au doux parfum de nostalgie. Vous nous écrivez donc à l'instantm@radiofrance.com. Rendez-vous évidemment à la fin de l'émission pour le résultat.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Isabelle Giordano et Pascal Le Chevalier sont donc mes invités. Isabelle Giordano, porte-voix du cinéma français à la tête d'Unifrance. Pascal Le Chevalier, observateur attentif du marché des médias numériques. On parle ce matin de diffusion du cinéma à la télé, de DVD et de plateformes de type Netflix, la chronologie des médias. Alors ça peut sembler complexe ce dossier, on va essayer d'éclaircir les choses ce matin. L'histoire commence en 1982.
E.T. phone home. E.T. phone home. E.T. phone home.
E.T. téléphone maison. Cette année-là, le film de Spielberg cartonne en salle. Et c'est la cassette VHS qui inquiète à l'époque le secteur du cinéma. Le ministre de la Culture, Jack Lang, se penche donc sur le dossier. Et il décide qu'il faudra attendre un an avant de voir E.T. ou tout autre film dans son salon. D'ailleurs, à l'époque, le délai dépendait du nombre d'entrées en salle. Si un film a fait un bide sur grand écran, il peut être diffusé plus vite à la télé. Alors, depuis, il y a eu beaucoup, beaucoup de rebondissements pour aboutir à la situation actuelle. Qu'on peut résumer ainsi. Quand un film sort au cinéma, il faut attendre 4 mois pour qu'il sorte en DVD ou en vidéo à la demande, 10 mois pour qu'il passe sur les chaînes payantes qui financent le cinéma, Canal+ ou OCS, et puis pour TF1, France 2, M6, les chaînes gratuites, il faut attendre 22 mois, presque 2 ans, et enfin, loin derrière, Netflix ou Amazon ont un délai de 3 ans. Les règles datent de 2009, Pascal Le Chevalier, ça fait 8 ans. Pourtant, en 8 ans, il y a 2-3 choses qui ont changé, non ?
Ah bon ?
Ouais.
Surprenant.
Racontez-nous ça.
Le monde a en effet changé. Alors, c'est vrai que les professionnels, depuis tout ce temps-là, discutent de l'aménagement de la chronologie des médias, qui est encore une fois un outil que le public ne connaît pas, qui est uniquement fait pour financer le cinéma.
Et il constate, le public, que les films passent pas tout de suite à la télé.
Exactement. Ça, oui. Et pendant ce temps-là, les professionnels ont peut-être oublié que pris dans leur cycle de discussion extrêmement long, alors la discussion commence avec les exploitants en salle et se termine avec les éditeurs de DVD et maintenant de plateforme. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde autour de la table. Je crois qu'il y avait une quarantaine de signataires du précédent accord. Donc ça veut dire que c'est quand même conséquent pour mener une négociation à bien. Et pendant ce temps-là, les usages ont simplement évolué grâce à la technologie, puis surtout grâce au comportement des internautes, enfin de nous tous, qui aujourd'hui avons envie de voir les films ou les séries tout de suite, dès que le nom commence à circuler sur Internet, on a envie de se procurer l'œuvre. Et évidemment, ça a ouvert la porte à quelque chose qui est terrible, qui est le vide numérique et qui a permis au piratage de s'engouffrer dans cette brèche. Parce qu'encore une fois, faut pas prendre tous les gens pour des pirates. Les gens veulent voir les œuvres et ne se posent même pas la question de savoir qu'une chronologie existe.
Elles sont obsolètes, entendons de toutes parts, ces règles de la chronologie des médias. Elles ont un sens quand même. Il s'agit de lutter contre le piratage.
Bien sûr, mais j'ai ressorti tout à l'heure un chiffre qui est extrêmement intéressant. En 2016, 90% des films français avaient terminé leur carrière en salle au bout de 5 semaines. Aujourd'hui, à 4 mois, vous êtes obligé d'attendre 16 semaines pour voir la même œuvre chez vous sur un DVD. Donc on voit bien que le rythme de mise à disposition s'accélère et surtout la vie des films est de plus en plus courte. Alors il y a toujours des exceptions, mais ça c'est un chiffre du CNC. Il faut s'adapter à ça, combler le vide numérique et mettre à disposition du public le plus vite possible, l'ensemble des œuvres.
Moi, le mot chronologie, ça me fait penser à ces frises, vous savez, qu'on coloriait à l'école pour illustrer oui. les cours d'histoire. C'est exactement ça. Sur une frise, on peut placer la sortie en DVD, la diffusion sur chaîne payante, la diffusion sur chaîne gratuite. Est-ce qu'il faut déchirer la frise et tout recommencer, Isabelle Giordano ?
Non, quand même pas. Et c'est vrai que ces règles, elles sont importantes.
Il m'a tendu la frise, d'ailleurs, Pascal Le Chevalier. Elle est magnifique. Hein. On dirait un cours d'histoire.
Non, mais c'est vrai. Et puis pour les auditeurs, ça peut paraître un petit peu obscur, mais c'est vrai que c'est important. Il faut juste rappeler que c'est important parce que ces règles, bah c'est ça, c'est notre exception culturelle, c'est notre spécialité, un peu en France, un peu comme la quiche Lorraine, c'est vrai que on est les spécialistes de l'exception culturelle, protéger le droit d'auteur, protéger les artistes, protéger les ayants droit, il faut quand même rappeler ça, c'est très important. Mais par ailleurs, c'est vrai que, comme vous l'avez très bien dit, c'est vrai que le monde bouge, le monde change. Moi, c'est vrai que je passe mon temps depuis 3 ans à circuler partout dans le monde, j'étais encore hier au Canada, et c'est vrai que je vois bien, à chaque fois, j'essaye de voir comment est-ce que les gens s'informent et comment est-ce que les gens se divertissent. Dans chaque pays, je vois que la chronologie des médias, eh bien, n'est pas du tout la même qu'en France, elle est beaucoup plus souple, de deux manières. D'une part, je crois qu'on est le pays au monde où ces règles sont les plus étendues, et d'ailleurs Netflix était étonné quand même un peu de notre régulation. Et puis, je pense aussi qu'il y a beaucoup de pays dont on pourrait s'inspirer, puisque les règles sont faites par les professionnels et pas forcément par le pouvoir, par les pouvoirs publics. Donc on c'est imagine... peut-être aussi à la profession de s'organiser. Mais autre spécialité française, c'est qu'en France, on a beaucoup de mal à faire en sorte que dans notre secteur du cinéma et de l'audiovisuel, on puisse mettre des professionnels autour d'une table et qu'ils puissent s'entendre assez vite. Et c'est vrai que ça, c'est un peu dommageable de voir 40 personnes autour d'une table qui sont incapables de se mettre d'accord. Donc on est de rapport en rapport, il y a eu un nombre incalculable de recommandations et voilà, c'est un temps beaucoup trop long qui ne suit pas les usages.
On comprend aussi les réticences de certains. Pourquoi, de quel droit Netflix irait changer les règles du cinéma français, Isabelle Giordano?
Moi, je pense qu'il faut vraiment se mettre à la place des gens. Moi, je reviens aux usages. Et c'est vrai que la régulation, elle ne va pas assez vite par rapport aux usages. Aujourd'hui, ben, comme vous le disiez, les gens, ils entendent parler d'un film, ils ont un buzz sur les réseaux sociaux, ils ont envie de le voir s'il n'est plus disponible en salle. On est un des seuls pays au monde où il y a autant de salles de cinéma. Donc, on a là encore cette espèce de cas particulier. Mais il faut voir comment ça se passe dans le reste du monde. Les gens n'ont pas forcément une salle de cinéma à deux pas de chez eux. Ils sont chez eux, ils regardent leur cinéma en numérique.
Et le cinéma à la télé, c'est quand même du cinéma.
Mais bien sûr. Et c'est ce qui fait que nous, on organise depuis 8 ans un festival en ligne qui marche très bien. Cette année, il y a eu 10 millions de vues
pour My voir French des Film films
voilà, comme Rock'n'Roll, Guillaume Canet, etc. Plein de films, notamment de la jeune création, qui sont disponibles dans le monde entier. On a eu tous les jours pendant un mois des messages qui nous arrivaient de Tokyo, de Mexico, de Buenos Aires, de partout dans le monde, de gens qui nous disaient « mais on a adoré voir tel et tel film français, on a découvert des films français grâce au numérique. Le numérique est une chance pour le cinéma. »
Alors la ministre de la Culture a nommé un médiateur en octobre dernier, Dominique Dinin, le patron d'Eutelsat, c'est un opérateur satellite. Et ce médiateur doit rendre son rapport la semaine prochaine, hein, ses propositions de réforme. Les grandes lignes de son document ont déjà été dévoilées dans la presse. Est-ce qu'on peut résumer ce projet en disant que c'est Canal+ qui gagne, Pascal Le Chevalier?
De fait, puisque Canal+ va profiter d'un avancement de sa fenêtre de 10 mois.
Donc avancer la fenêtre, ça veut dire avoir un délai plus court entre la sortie au cinéma
Exactement.
Et la sortie
Donc,
à la télé.
Donc la mise à disposition des films sur Canal+ va avancer de 10 mois à 6 mois.
Si ce rapport est suivi
et si les professionnels le valident. Dans le même temps, vidéo et DVD passeront d'une mise à disposition de 4 mois à 3 mois. Mais très très grande nouveauté, les plateformes de vidéo à la demande par abonnement, donc en gros, et je donne le nom de plateformes françaises comme Filmo TV, pourront, si elles sont vertueuses au sens du texte, c'est-à-dire avoir une contribution extrêmement significative, calé d'ailleurs sur les modes de remontée de la PTV, de la télévision payante, donc Canal, pourront donc démarrer à 6 mois et non plus à 36 mois.
6 mois au lieu de 3 ans, ce serait une avancée considérable pour les plateformes. Mais effectivement, la vertu vient mettre son nez là-dedans. Les chaînes payantes et les plateformes de SVOD pourront diffuser les films au bout de 6 mois si elles ont un comportement vertueux. De quoi s'agit-il exactement?
C'est la vertu de cette espèce de ligne Maginot virtuelle qui n'empêchera rien. Je vais juste donner quelques chiffres. Netflix aujourd'hui, puisque c'est quand même la plateforme qui comptabilise plus de 2 millions et demi d'abonnés en France, ils ne communiquent pas les chiffres, donc on ne va pas s'avancer. Ils ont 25 000 titres disponibles, mais sur le cinéma, plus de la moitié des films qui sont aujourd'hui proposés par Netflix sur la plateforme française sont des films qui ne sont pas passés par la salle, c'est-à-dire qui sont hors chronologie des médias. Donc dans l'absolu, ça n'empêchera pas Netflix de mettre des films à disposition, parce qu'encore une fois, il y a un vrai débat autour de la qualification de l'œuvre cinématographique. Est-ce qu'un film ou une œuvre cinématographique est un programme qui passe par la salle avec un numéro de visa, ou est-ce qu'un film qui est acheté en festival et mis directement en ligne sur une plateforme est ou n'est pas un film? Et Netflix va bousculer tout ça, puisque de toute façon, il n'applique pas la chronologie des médias. Et vu le texte,
complètement.
Vu la proposition qui est faite, je pense qu'ils ne l'appliqueront toujours pas.
Ils vont refuser, a priori, cet accord tel qu'il est proposé. Alors tout le monde devra en tout cas tomber d'accord avant le Festival de Cannes. C'est le calendrier, en tout cas, de la ministre de la Culture. Netflix a suscité une vague d'indignation l'année dernière au Festival de Cannes en refusant de sortir en salle ce film.
Cette merveilleuse petite créature sera bientôt une révolution dans l'industrie de l'élevage. Nos super cochons ne seront pas seulement magnifiques et bien gras. Ils laisseront aussi une empreinte environnementale la plus faible possible, consommeront peu de nourriture et produiront moins d'excréments. Et le plus important, leur chair devra avoir bon goût.
Okja, un film réalisé par un Sud-Coréen qui était en compétition officielle à Cannes.
Très beau film.
Jordano, les super cochons d'Okja.
Et là encore, j'insiste, il n'y a qu'en France qu'on se chamaille de cette manière-là, parce qu'il y a plein de festivals qui existent partout dans le monde où on diffuse des films qui sont ensuite sur Netflix, etc. Et où ça ne crée absolument pas de polémique. On s'est un petit peu ridiculisé aux yeux du monde. Mais moi, je reprendrai quand même le mot piratage. C'est très important parce que je trouve que les pouvoirs publics ne se sont pas encore assez emparés de ce sujet. Il y a même des professionnels qui pensent qu'on a organisé d'une certaine manière le piratage, en laissant effectivement des laps de temps beaucoup trop longs. Quand on a envie de voir un film, effectivement, malheureusement, le réflexe de certains, et notamment de certains spectateurs ou internautes, c'est d'aller le pirater parce qu'ils ont envie de le voir, parce qu'ils en entendent parler. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même d'anachronique dans cette chronologie des médias aujourd'hui. Mais il y a des expériences aussi à reprendre. C'est vrai qu'il y a il y a vraiment de multiples expériences en Angleterre. Il y a le day and date. Je suis désolée d'employer ce terme un peu technique, mais c'est vrai que on peut aussi imaginer des sorties simultanées à la fois dans des salles, sur des plateformes. Il y a de multiples exemples qu'on pourrait prendre à l'étranger et s'en inspirer.
Alors, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'on peut pas dire qu'on n'avait pas vu venir les plateformes de type Netflix. Écoutez cette archive, Jack Lang en 1982 dans L'heure de vérité.
Lorsque, d'ici quelque temps, très bientôt, de nombreux réseaux s'offriront au public. Chacun pourra choisir l'un une émission de rock, l'autre un film, un autre une émission de gymnastique. Et on substituera à une télévision menu fixe, une télévision à la carte. Je crois beaucoup que l'avenir des télécommunications, c'est-à-dire la diversification des réseaux, permettront à chaque téléspectateur de choisir un programme selon ses goûts.
Mais ça sera la fin du public moyen.
Ce sera la fin du public moyen et ce sera la fin aussi d'un système dans lequel tel d'entre nous voudrait imposer ses propres goûts.
Il est visionnaire, le ministre de la Culture en 82.
Très visionnaire. Et ça va encore changer, il y a une accélération. Moi, j'étais hier au Canada où je voyais que les Canadiens avaient envisagé de taxer Netflix, mais comme une solution vraiment envisageable. Ce qui paraissait impossible il y a un an, devient maintenant dans des accords avec l'OCDE, avec le G7, etc. Ça devient vraiment un sujet qui peut être envisageable dans l'année qui vient.
Si j'ai bien compris, Pascal Le Chevalier, tout le monde est d'accord pour dire que les règles aujourd'hui sont obsolètes, mais les propositions qui vont arriver sur le bureau du gouvernement la semaine prochaine, elle ne devrait toujours pas convenir à Netflix. Comment va-t-on sortir de cette impasse?
Je pense que le sujet, ce n'est pas Netflix. Isabelle Jordano l'a dit il y a quelques instants. Ce qui est important, c'est les professionnels.
Enfin, s'ils refusent l'accord, on n'avance pas.
Non, mais Netflix ne signera pas l'accord. Enfin, je ne vois pas comment ils accepteraient de remonter 3,50 € par abonné, par mois, pour financer le cinéma français et européen. Mmh. Par contre, je pense qu'il y a un vœu à formuler extrêmement important, c'est que cet accord, s'il aboutit, qu'il permette enfin aux Européens et en particulier aux Français à construire une plateforme de vidéo à la demande par abonnement digne de ce nom. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde pleure, mais personne n'a rien fait. Et espérons que cette chronologie, en mettant la fenêtre à 6 mois et en étant vertueuse, permettra à un modèle et à des Français de se réunir enfin pour construire quelque chose. Parce que la seule opposition qu'on peut faire à ces plateformes américaines, c'est justement de montrer cette fameuse exception culturelle en la mettant dans des portails et en essayant d'être meilleur qu'eux.
Très rapidement, c'est pas sacrilège de s'attaquer à l'exception
culturelle? Mais pas du tout. Justement, le jour où on aura compris que c'est pas l'un contre l'autre, c'est les uns avec les autres, tout est lié. Et effectivement, nous sommes nombreux à militer pour cette plateforme européenne. Je pense que c'est vraiment l'avenir. Et c'est une question d'offre. Plus on va offrir ce genre de service aux amateurs de cinéma, plus ils seront contents.
Allez, le résultat du jeu, l'instant Madeleine, merci aux nombreux auditeurs qui nous ont écrit et qui ont reconnu la voix de Daniel Mermet dans la ville de Paramaribo. Il y a une rue qui monte et ne descend jamais. C'était sur France Inter en 79. Philippe remporte donc un double CD édité par Lina, Enfance de Prévert, lu par l'auteur. Merci beaucoup à tous les deux, Isabelle Jordano, Pascal Le Chevalier. Juste après les infos, Ali Rebéi en direct du Salon de l'Agriculture, vice et vertu du fromage. Et lundi dans l'instant M, c'est le retour de Sonia de Villers. Je remercie la précieuse et sémillante équipe de l'Instant M, Violaine Ballet, Marion Philippe, Redouane Tella, Fabrice Desmaz à la technique.